France Inter. .fr. Bonjour. Vous avez dit Classique est avec Pascal Bruckner aujourd'hui, le philosophe, romancier et essayiste qui vient de signer un livre sorti chez Grasset, La sagesse de l'argent, dans lequel il décortique notre passion-répulsion pour ce bien qui fait du mal et inversement. Et il est avec nous aujourd'hui pour nous parler de lui à travers des musiques classiques qu'il écoute depuis l'enfance. De Bach à Schubert, en passant par Mozart ou Léo Ferré, le chanteur, ce sont des compositeurs et des œuvres musicales qui jalonnent la vie de celui qui a choisi d'écrire ses réflexions et pensées, de ce philosophe contradicteur dans l'âme qui a appris l'allemand en même temps que le français, connu la révolution sexuelle et la libre pensée. Loin des sentiers battus et des polémiques qui lui sont souvent associées, Pascal Bruckner est donc avec nous pour nous faire découvrir une partie de sa discothèque classique. Bonjour Pascal Bruckner.
Bonjour.
C'est vrai que ce sont des goûts, j'aurais envie de dire, entre le profane et le sacré, de Bach à Mozart,
oui,
de Mozart à Bach.
Oui, j'ai une éducation très religieuse, très catholique, et donc j'ai baigné dans la musique sacrée toute mon enfance. Et puis évidemment après on s'en affranchit et on forge ses propres goûts, mais bon, il vient un moment dans la vie où la musique c'est le moyen de revenir à l'enfance aussi, donc de boucler la boucle en quelque sorte. Mais j'ai eu une longue période où j'ai détesté le classique.
Ah, c'est vrai?
Oui, c'est
sûr. La période de rock, j'imagine.
Oui, rock, pop, funk, blues, soul.
Ça a duré longtemps?
Ah, ça a duré longtemps, oui, ça a duré jusqu'à 40-45 ans.
Et le rejet se situait où, pourquoi?
Ah non, pour moi, c'était une musique inaudible, c'était, ouais, je pense, c'était le rejet de la famille, le rejet du père, puisqu'on appartient à une famille qui est d'origine allemande. Et puis voilà, c'était l'envie d'être dans le mouvement et de ne pas succomber au charme un peu vieillot du classique comme je le voyais à l'époque. Et maintenant, je succombe au contraire très volontiers parce que j'ai redécouvert un continent que j'ai fait aussi du piano classique pendant 10 ans.
On va pouvoir en parler de ça.
Et donc voilà. Donc maintenant, je suis revenu maintenant depuis longtemps à l'immensité du continent classique.
Et vous rendez compte que ça n'a rien d'associé à la vieillesse ou à un jeunisme, enfin d'aimer le rock ou d'aimer le classique?
Si, mais alors, même, déjà il y a des vieux rockers, il n'y a que ça. Il n'y a que ça, regardez.
Dans
Christophe,
votre génération,
il y a... Oui, il n'y a que ça, que des vieux rockers.
Et d'ailleurs, puis, ils disparaissent, on note ça en ce moment.
Ils disparaissent, le rocker meurt aussi. Ben oui, il y a eu Prince qui est mort. Et puis, non, puis c'est pas grave. Honnêtement, ça m'est complètement égal. Ouais. Si vieillir, c'est approfondir un certain nombre de choses, je l'accepte très volontiers.
Bon, alors on va pouvoir remonter à l'enfance avec votre compositeur de chevet, je crois, en tout cas le compositeur que vous aimez par-dessus tout, Jean-Sébastien Bach. Et là, c'est vraiment l'enfance, je crois, puisque dans votre famille croyante, on écoutait beaucoup Bach.
Non, ils n'écoutaient pas beaucoup Bach.
Ils étaient religieuses non plus.
Non plus. Enfin, mon père, qui était un nostalgique du Troisième Reich, écoutait beaucoup de musique militaire. Mmh. Deutschland über alles de Haydn. Bon, enfin, à l'origine, c'est une musique très classique, donc assez belle. Et puis, il écoutait surtout Mozart et Beethoven.
Ah, d'accord. Donc
Bach,
c'est vous?
Est devenu une passion, oui, plus tardive, oui. Avec les cantates, avec les messes. Et là même, il n'y a pas une journée où je n'écoute pas du Bach.
Alors, si je vous dis concerto brandebourgeois, ça vous va?
Oui, bien sûr, oui. J'en ai de multiples variantes. Mais oui, les concertos pour trois pianos. Enfin oui, non, voilà, Bach est devenu une passion tardive.
Mais
pourquoi? Parce que pour remonter un tout petit peu dans l'histoire de l'Europe, si on regarde l'histoire du christianisme, quand la réforme arrive au XVIe siècle, elle s'insurge avant tout contre la représentation, les peintures, les sculptures dont regorgent les églises catholiques. Et le protestantisme qui se veut une insurrection contre la corruption vaticane et romaine, la putain de Babylone, comme disait Thomas Münzer, donc décide de vider les églises en Suisse, Zwingli, qui est un réformateur, en même temps que Calvin, décide de nettoyer les peintures. Et le protestantisme étant basé sur l'interdit de la représentation, en tout cas sur une certaine forme d'interdit de la représentation qu'il rapproche du judaïsme et de l'islam, a permis que se développe sur le plan artistique un sens qui n'était peut-être pas cultivé avec autant d'intensité par le catholicisme, qui est Louis. Et je pense que Bach ne peut pas se comprendre sans Luther. Et donc l'extraordinaire musique de Bach, effectivement, c'est une certaine manière, c'est une revanche du sensible contre l'interdiction faite aux protestants d'adorer des idoles, c'est-à-dire des images.
Et d'ailleurs, ils transcendent régulièrement le sacré avec une musique qui va bien au-delà de sa mission première, qui est donc de servir la messe. Et donc, ce concerto brandebourgeois aussi, c'était une façon de montrer à quel point Bach était ouvert sur le monde. Et avec le concerto brandebourgeois, il s'intéresse à ce qui se passe à Venise à l'époque où Venise est un triomphe musical. Et donc, il va reprendre le dialogue vénitien entre violon, alto et violoncelle dans ce concerto brandebourgeois numéro 3 en sol majeur. Le voici donc dans son premier mouvement, interprété par la symphonie du Marais.
Thank you.
Le tempo giusto du concerto numéro 3 en sol majeur de Jean-Sébastien Bach, concerto dit brandebourgeois, qu'il a composé en 1721, apparemment quelques années après avoir découvert donc les concertos italiens donc de Vivaldi ou l'instrument communiqué donc avec l'orchestre, mais ils sont pas nombreux en fait hein, les instrumentistes. Pascal Bruckner, donc cette enfance qui est la vôtre, qui est une enfance qui commence en langue allemande, c'est ce que je disais en introduction de cette émission, puisque vous avez grandi en Autriche très
oui,
jeune.
Voilà,
petit.
Très jeune, comme j'ai attrapé un début de tuberculose, mes parents m'ont envoyé dans un sanatorium à l'ouest de l'Autriche, dans le Vorarlberg, dans une petite vallée totalement coupée du monde. Et c'était très agréable.
Mais enfin, pourquoi en Autriche ?
Pourquoi en Autriche ? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, mon père voulait m'élever dans la langue allemande et dans le culte du défunt régime du Troisième Reich. Et donc, il se disait que là, j'avais de bonnes bases. Effectivement, j'ai appris l'allemand. Mais c'était même pas l'allemand, c'était un patois assez proche du bavarois. Et donc ma mère a dû engager une dame qui était franco-allemande pour me comprendre, parce qu'elle n'arrivait plus à communiquer avec moi.
Votre mère, parce qu'elle ne parlait pas l'allemand?
Non, elle baragouinait l'allemand, elle n'a jamais réussi à le parler correctement. Et donc au bout de quelques années, ça l'a exaspérée, on m'a retiré d'Autriche et je suis allé en Suisse, en Suisse française, à Lesin. Où 10 ans avant, il y avait eu 10 ou 15 ans avant, il y avait eu Camus et Barthes. J'ai appris ça en faisant des recherches sur Internet.
Que vous avez connu après, hein. En tout cas, Barthes.
Barthes, j'ai connu après. Et donc voilà, c'est en Autriche que j'ai grandi, dans la montagne. Du coup, je suis devenu un fou de montagne, parce que aujourd'hui encore, je passe l'été et l'hiver dans les Alpes. Et mais effectivement, je ne parlais que, je baragouinais du dialecte,
patois.
Du dialecte, voilà, austro-bavarois. Mais c'était très agréable. Et donc là, il y avait beaucoup de, effectivement, une atmosphère très religieuse, que l'Autriche était catholique.
Est-ce que votre désir de nous faire entendre les vêpres solennelles pour un confesseur nous permette de remonter à cette époque-là, puisqu'on est en Autriche, hein, avec Mozart aussi à l'époque, c'est là que vous, quand vous entendez ces vêpres solennelles, vous pensez à cette période de votre vie, Pascal?
Oui, parce que c'était donc la messe de Noël.
Oui.
Et la messe de Noël dans un village qui était à 1200 mètres, en général coupé par la neige du reste du monde. Et donc une chorale entamait le Laudate Dominum. C'est une chorale d'amateurs. Il y avait dansé sur l'autel le fou du village. Tous les gamins étaient, on était une cinquantaine de gamins devant. Il n'y avait pas d'hommes, parce que les hommes étaient morts à la guerre ou étaient encore, bon, ils n'étaient pas revenus. Et donc, c'était un chant plein de fausses notes, mais magnifique.
Alors, on va donc écouter cette musique religieuse, dernière œuvre écrite par Mozart pour les services de Salzbourg. Alors, ces vêpres sont construites sur 5 psaumes. Et comme à ce moment-là, Mozart écrit pour l'archevêque Colloredo de Salzbourg, il faut que cette messe soit courte, parce que l'archevêque juge qu'il faut qu'une messe ne dure pas plus de 45 minutes.
Il avait raison.
C'est vrai que ça peut être long au-delà. Alors, ces vêpres sont composées à un moment où Mozart est en deuil. Il vient de perdre sa mère. Alors, malgré le fait que ce soit une commande, hein, c'est d'une belle inventivité musicale, et la voici, ça célèbre la Saint-Jérôme. le Laudate Dominum des Vêpres solennelles pour un confesseur de Wolfgang Amadeus Mozart, interprété par Kirite Kanawa et l'orchestre de chambre anglais, le chœur de la cathédrale Saint-Paul, sous la direction de Barry Rose.
Vous avez dit classique ? Elsa Boublil sur France Inter.
Alors Pascal Bruckner, vous venez d'écrire un essai sur la sagesse de l'argent, mais avant de parler de cet essai assez passionnant d'ailleurs, on va parler de votre enfance donc qui se poursuit après l'Autriche à Lyon. Vous étiez chez les Jésuites.
Oui, j'étais 10 ans chez les Jésuites à Lyon.
Comment vous êtes retrouvé là? C'est vos parents qui étaient dans...
Mes parents ont déménagé. C'est voilà, mon père a trouvé, je pense, un poste à Lyon. Il était ingénieur. Et puis le climat était bon, très continental. Pas loin des montagnes. Et je me suis retrouvé donc dans un collège avec une ambiance un peu à la Robert Musil, des arbres des Lefterless, donc une bourgeoisie lyonnaise classique. Je pense qu'elle a disparu en partie aujourd'hui.
Que vous racontez aussi bien dans votre essai, hein, d'ailleurs. Oui. Ces gens bourgeois qui se cachent derrière leurs deux chevaux.
Voilà, c'est ça, une bourgeoisie qui venait à la messe le dimanche dans une petite deux chevaux en tenue modeste pour ne pas susciter l'envie des pauvres ou des autres et qui se retrouvaient ensuite dans leurs grandes propriétés avec leur Ferrari, leur domesticité, leurs amis également riches. Mais donc voilà, c'était un milieu très fermé, Lyon. Hein. Ça n'était pas du tout la ville magnifique qu'elle est devenue aujourd'hui. C'était sale, gris. Garçons et filles n'étaient pas du tout mélangés. Le sexe opposé était évidemment fantasmé comme à la fois la merveille et la terreur. Donc c'était vraiment la France de l'ancien régime, celle d'avant 68. On a oublié. Puisqu'aujourd'hui, on brocarde mai 68 et les libertés dont nous bénéficions, mais on oublie peut-être un peu ce qui s'était passé avant et l'espèce de chape de plomb qui pesait sur la France d'alors, la France gaulienne, qui n'était pas toujours très, très excitante, surtout pour un homme jeune, un homme ou une femme jeune.
Alors l'enfant bourgeois que vous étiez se devait d'apprendre le piano, par exemple?
Oui, alors mes parents m'ont mis au piano parce que mon grand-père, qui était donc d'origine allemande et flamande, était un très bon pianiste. Donc c'est voilà, il était entendu qu'il fallait faire et ses humanités et sa musique classique. Et j'ai eu comme professeur la fille de Jean Zay, qui était donc une dame... très, très gentille, très autoritaire. Et je pense que j'ai dû la désoler parce que j'étais tellement mauvais que j'ai dû désespérer un peu sa capacité à former des élèves. Mais en tout cas, je me souviens d'elle, voilà, je me souviens d'elle, de son nom, de son appartement et de mon incapacité à mener à bien les partitions. Donc mais au moins, le goût du piano ne m'a pas quitté.
Donc ce n'est pas là que vous avez appris le concerto italien de Jean-Sébastien Bach?
Non, on n'est pas allé aussi loin.
Non,
mais je lui avais demandé d'apprendre du jazz, parce que je voulais être en phase avec mon époque, et elle m'avait appris du Debussy, que je trouvais horriblement triste à l'époque, et donc je n'ai pas pu franchir le pas, et finalement j'ai abandonné le piano. Classique.
En tout cas, on va écouter maintenant le concerto italien de Jean-Sébastien Bach. Alors là, je vous parlais de l'influence de Vivaldi sur Bach. Là, c'est l'exemple parfait puisqu'il s'était dit, je vais le composer pour deux claviers du clavecin. À la main gauche, ça sera l'orchestre. À la main droite, ça sera le soliste. Et interprété par Murray Perahia, les contrastes sont saisissants.
Thank you.
concerto italien en fa majeur pour piano, c'était l'Allegro interprété par Murray Peyrayas et donc Jean-Sébastien Bach. Ça vous a plu, Pascal Bruckner ?
Oui, beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à l'époque de Bach, l'originalité n'existait pas. C'est-à-dire que l'originalité est une idée romantique née avec l'individu contemporain. Et donc, les auteurs se plagiaient les uns les autres, sans aucun scrupule, puisque...
Parce que même lui, il l'a fait pour apprendre, en fait.
Voilà, on composait à partir de ce qui était déjà composé, de même qu'on écrivait des livres qui devaient reproduire des grands classiques. Et aujourd'hui, ce genre d'exercice serait interdit, en tout cas serait problématique sur le plan de la propriété intellectuelle. Alors qu'auparavant, on pensait que la perfection ayant existé de toute éternité chez les classiques grecs et latins, le travail de l'artiste, de l'écrivain, du poète, du dramaturge, était simplement de reproduire ou d'actualiser ce qui avait déjà été fait par d'autres.
Ce qui est le travail de l'improvisation également.
Qui est le travail de l'improvisation, mais alors effectivement aujourd'hui avec le copyright, nous ne pouvons absolument plus faire cela parce qu'on serait immédiatement traîné devant les tribunaux et ça modifie complètement le sens de l'œuvre d'art. Qui se veut d'être originale, alors même que très souvent, elle est elle-même une reproduction de ce qui a déjà été fait.
Alors vous-même, vous inspirez beaucoup des textes anciens pour parler de l'actualité. Quand vous avez laissé tomber le piano et que vous l'avez repris, quand vous avez fait du piano bar, Pascal Bruckner, vous jouiez quoi ?
Alors je jouais, j'avais une liste de 50 morceaux. Mais évidemment, je tirais un peu sur la corde parce qu'il fallait que je tienne de 8h à minuit.
Ah oui.
Et oui, c'est
quand
même.
Vous gagnez votre vie quand même comme ça?
Oui, enfin, je gagnais. Oui, j'étais payé, je crois, 100 francs plus un dîner à minuit, ce qui était pas mal. À l'époque, c'était énorme. Pour moi, c'était énorme. Mais j'improvisais sur du blues. Alors là, c'est infini parce que vous commencez une gamme et vous faites vos trois mouvements. Et puis ensuite, vous pouvez broder. Et, les gens n'écoutent pas. La seule difficulté, venait quand on me demandait d'interpréter un morceau que je ne connaissais pas. Et un jour, j'ai eu évidemment l'humiliation de ma soirée quand s'est assis à côté de moi un jeune homme qui, lui, était un pianiste extrêmement délié. Et je me sentais évidemment laissé en arrière. Et j'ai vu dans le regard du restaurateur qui m'employait une sorte de regret en disant « j'ai eu le tocard et malheureusement le bon va repartir » parce que c'était un consommateur. Mais sinon, c'est très agréable et puis plus on joue, mieux on joue.
Alors on va poursuivre avec un compositeur qui savait bien tisser le lien entre les compositeurs et les périodes. Il s'agit de Schubert, puisqu'il va composer en 1828 ses trois grandes sonates. On va écouter la numéro 20 en la majeure D959, qu'il a composée un an après la mort de Beethoven. Et elle contient en elle des réminiscences de Beethoven, vous l'entendrez, hein, qui est donc disparu l'année précédente. On entend son influence juste après la répétition du thème si fameux de cette Andantino qu'on va écouter dans quelques instants. Et en fait, ça va encore plus loin puisqu'on va entendre à certains moments des références à des fugues de Bach. Alors, c'est une œuvre qui a été éditée à titre posthume 10 ans après sa composition. Je ne sais pas pourquoi vous l'avez choisi, Pascal Bruckner.
Ah ben pour sa beauté, non, il n'y a pas de raison particulière.
Sa
mélancolie, mais c'est une mélancolie heureuse. Alors que souvent, la mélancolie chez Schubert est tragique. Là, c'est une mélancolie heureuse que l'on peut écouter dans tous les moments de la vie.
Alors écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles parce que le début est très 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 piano. la sonate numéro 20 en la majeure pour piano de Franz Schubert, interprétée comme vous le souhaitiez, Pascal Bruckner, par Christian Zacharias. Parce que vous l'avez découvert récemment, cette
interprétation ? Non, je l'avais depuis très longtemps et je l'ai redécouvert. Mais ce qui est tout à fait extraordinaire dans cette sonate, c'est la simplicité du thème. Et très souvent, finalement, la grandeur d'une œuvre d'art ne vient pas de son extrême complexité, mais de ce que tout d'un coup, elle débarrasse l'oreille ou les yeux de tout un fatras d'images ou de sons, et on revient à un thème extrêmement simple.
Qui peut se chanter d'ailleurs.
Qui peut se chanter et qui saisit l'auditeur.
France Inter. Vous avez dit classique. Elsa Boublil.
Pascal Bruckner, vous êtes de la génération de ceux qu'on appelle les 68ards. Vous aviez 20 ans en 1968. Vous étiez étudiant en philosophie, c'est ça ?
Oui.
Vous avez tenté Normale Sup, mais vous avez échoué.
J'ai échoué, oui. Je m'en félicite aujourd'hui.
C'est vrai ? Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que je serais devenu un prof dans un lycée de banlieue, comme tous mes copains qui ensuite ont été dégoûtés de l'enseignement. J'ai également raté l'agrégation de philosophie, et pour les mêmes raisons je m'en félicite, alors que je n'ai jamais compris pourquoi un Michel Tournier, qui est un écrivain absolument extraordinaire, a regretté toute sa vie de ne pas avoir fait l'agrégation de philosophie. Car ça n'apporte rien, c'est pas une preuve de talent ou d'intelligence, c'est juste la...
C'est faire partie d'une élite peut-être ?
Oui, mais on peut en faire partie autrement, ou d'une autre élite, et puis c'est juste simplement répondre aux critères d'un concours fixé par le ministère de l'Éducation. Mais j'ai eu la chance de faire licence et maîtrise de philosophie avec Vladimir Yankelevitch, à qui je voue rétrospectivement un véritable culte.
Oui,
qui était un très grand pianiste, parce que c'était un homme, il était beau. Vous voyez, il était la personne chez qui l'intelligence et la beauté coïncidaient. Ce qui est très rare, j'ai assisté à quelques, il joue du piano chez lui, Quai aux Fleurs. Donc une fois j'étais allé chercher une copie et il avait interprété des morceaux de Monpou, que j'ai découvert très longtemps après, parce qu'il aimait beaucoup la musique espagnole. Et il aimait beaucoup la musique russe aussi. Et puis après, j'ai fait donc une thèse avec Roland Barthes, qui était aussi un monsieur tout à fait extraordinaire. Et donc voilà, je ne regrette pas du tout.
Ça ne vous a pas empêché de rencontrer des grands philosophes qui ont marqué.
Non, parce que l'époque était beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. À l'époque, vous écriviez à quelqu'un, il vous répondait par retour de courrier. Il y avait une grande simplicité dans les contacts qui a disparu. Puisqu'aujourd'hui, les gens, les stars, se dissimulent un peu derrière leur célébrité. Et puis bon, voilà, on est une époque beaucoup plus dure, beaucoup moins sympathique, beaucoup moins chaleureuse que les années 60-70, qui étaient quand même des années de liberté. Aujourd'hui, c'est des années de renfermement, de contraction, où l'on semble payer indéfiniment la note de tout ce qu'on a gagné dans les années 70-80.
Et sans avoir peur de choisir l'écriture, qui n'est pas non plus une voie facile, qui paraît facile aujourd'hui, de se dire, voilà, je vais devenir essayiste.
Oui, je veux devenir écrivain. Alors ça fait le désespoir de ma mère, parce que ma mère est devenue fonctionnaire au milieu de sa vie. Et son rêve, c'était que je suive ses pas. Et effectivement, j'ai choisi l'écriture parce que je m'étais juré à 15 ans de ne jamais avoir d'enfant, de ne jamais me marier, de ne jamais travailler.
Vous avez échoué là-dessus.
Alors j'ai échoué sur deux aspects, et j'ai eu raison d'échouer, parce qu'on est bête quand on a 15 ans, mais je n'ai jamais travaillé, je n'ai jamais été salarié. Parce que j'ai très vite perçu que la contrainte d'une vie dans un bureau et la contrainte d'un chef qui contrôle vos faits et gestes pouvaient être pénibles. Mais ça a été un pari, et c'est un pari que je pense avoir réussi, puisque je vis de mon écriture. Mais effectivement, c'était une époque où on pouvait encore prendre ce type de risque en se disant « j'ai une chance sur 3 ou 4 de réussir ».
Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. l'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs. Ça t'a une de ses gueules à la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort le samedi soir quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, l'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien, l'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux, pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps va, tout va bien.
Léo Ferré, Avec le temps, une chanson de 1971, l'une des plus chantées au monde. Pascal Bruckner, c'est quand même impressionnant ça.
Oui, parce que c'est une chanson extraordinaire. Moi, j'ai découvert quand j'avais 20 ans, avec ma première femme qui elle-même était chanteuse dans les rues, et donc je l'accompagnais, je faisais la quête après qu'elle l'ait chanté, et on écoutait ça, on s'enivrait de cette chanson et quelques autres aussi, chansons françaises. Et je pense que quand on est jeune, Léo Ferré, c'est comme une espèce de bouclier contre l'adversité future. On l'écoute sans y croire, on se dit ce n'est pas possible, rien ne peut passer avec le temps, tout simplement parce que avoir 20 ans, c'est avoir le temps devant soi. Et donc les soucis peuvent glisser, la pauvreté ou le manque d'argent n'ont aucune importance puisqu'on sait qu'on aura tout un avenir devant soi. Et on écoutait Ferré, c'était une abstraction, l'idée de la vieillesse était une abstraction dont on se prémunissait en se gorgeant de cette chanson qui effectivement est tellement vraie dans son message que c'en est presque banal, mais on ne peut pas l'écouter sans avoir la gorge serrée.
Et à la fois, Pascal Bruckner, effectivement, on dirait que c'est devenu une effigie, cette chanson de votre vie, puisque vous en parlez très bien dans votre essai, hein, le dernier essai que vous avez écrit, j'allais dire composé, La sagesse de l'argent.
Non, je ne l'ai pas composé, malheureusement.
vous racontez à quel point, finalement, c'est une philosophie de vie de choisir de ne pas penser à ce problème essentiel qui fait toute la vie, qui est l'argent.
Oui, alors c'est très difficile de ne pas y penser, mais j'écris ce livre parce qu'effectivement, il vient un moment dans l'existence, à partir de 40 ans, quand on a des responsabilités, des enfants, une famille à élever, où la question de l'argent devient centrale. Et manquer d'argent, c'est manquer de temps. C'est-à-dire, manquer d'argent, c'est rester incarcéré dans le présent, dans la succession des besoins. Il faut régler des traites, payer le loyer. Et donc, c'est aussi la malédiction de la pauvreté, car on peut dire ça, c'est de ne pas pouvoir faire de projet. Alors que la grandeur de l'être humain à tout âge, même je pense dans la grande vieillesse, c'est de pouvoir se dire « demain je vais entreprendre ceci, l'année prochaine si je suis toujours vivant, je vais lancer telle ou telle chose ». Et c'est précisément ce que donne l'argent, c'est-à-dire une certaine forme de liberté et d'insouciance. Et donc, l'insouciance, c'est la qualité primordiale de la jeunesse. C'est ça ce qu'il y a de merveilleux quand on est jeune, c'est qu'au fond, aucune souffrance, aucune adversité, aucun refus ne peut vraiment vous atteindre, car derrière, il y a cette provision d'années qui va vous porter et qui fait que votre destin, s'il a connu des revers, peut basculer vers un mieux. Avec le temps, pour reprendre la chanson, ça devient plus difficile. Et donc, effectivement, une petite provision d'argent peut vous aider à éviter la double peine.
Sans être excessif, hein, vous le dites bien.
Oui, sans être excessif. Mais enfin, bon, après, c'est à chacun à réguler son rythme de dépenses, puisque penser, c'est aussi penser à bien dépenser.
Mozart, lui, en 1780, se libère de cet archevêque de Salzbourg. Il écrit à son père qu'il est ravi d'être enfin libre et de ne plus devoir créer des œuvres pour quelqu'un, mais simplement pour lui. Alors évidemment, ça fait très peur au père de Mozart qui se dit « Mais de quoi va vivre mon fils ?» Eh bien, Mozart ose partir à Vienne. Il va composer l'Enlèvement au Sérail en 1782 et c'est un triomphe, heureusement pour lui. C'est un livret qui célèbre les idées des Lumières qui sont à contre-courant du temps et donc il va parler de l'Empire ottoman vraiment dans un autre langage. C'est un opéra national qui est écrit en allemand et qui fait la part belle à l'exotisme. Donc on peut dire que Mozart était très avant-gardiste et puis il a eu le courage de se libérer de l'emprise de l'argent.
France Inter. Vous avez dit classique. Elsa Boublil.
C'était donc l'ouverture de l'enlèvement au sérail de Mozart par l'Académie für Alte Musik de Berlin sous la direction de René Jacobs. C'est vrai, c'est un libertaire, on pourrait dire, Mozart, Pascal Bruckner.
Oui, c'est un libertaire, et ce qui est étonnant, c'est qu'au XVIIIe siècle, l'Empire ottoman, donc l'Orient de islamique, paraissait le symbole de la liberté de vivre, de la joie de la chair, de l'épanouissement des sens. Et on voit bien que l'image a complètement changé depuis une trentaine d'années, parce que personne n'aurait l'idée d'aller en Arabie Saoudite pour connaître un enlèvement au sérail. Ce serait un autre type d'enlèvement. Donc on voit bien que l'Orient a joué différentes fonctions à différentes époques. Mais à l'époque, c'est une manière de secouer aussi l'oppression de l'Église et du pouvoir royal.
Dans votre essai « La sagesse de l'argent », Pascal Bruckner, on comprend bien donc que c'est très compliqué hein, de pouvoir utiliser l'argent de manière intelligente, si toutefois on peut le faire. Est-ce qu'on peut être raisonnable justement avec
l'argent ? Alors, ça n'est pas compliqué dès lors qu'on a de l'argent. En fait, tout voilà. Est là. C'est ça, la première sagesse de l'argent, c'est d'en avoir, si j'ose dire. Et donc, toute la difficulté vient de là. Il est sage d'avoir de l'argent, parce que l'argent n'est pas un mal nécessaire, c'est un bien positif. Et une fois qu'on en a, effectivement, on peut décider soit de le dilapider, soit de le dépenser avec sagesse. Mais la première sagesse consiste effectivement à en gagner, et tout le problème est là. Et le paradoxe, c'est qu'au fond, les gens qui se donnent le luxe de mépriser l'argent sont des gens qui en ont déjà, soit par héritage, soit par leur travail, soit par la chance. Mais je pense qu'il faut vraiment revaloriser un médium qui, en France en tout cas, a tendance à être considéré comme vil, ignoble. Alors même que les Français, comme tous les peuples, sont obsédés par l'argent, ne parlent que d'argent, ne pensent qu'à l'argent.
Vous parlez beaucoup de la société américaine, alors on va finir avec Prince, qui en avait assez que les maisons de disques prennent de l'argent sur son dos. Alors il avait à un moment choisi de s'appeler No Name, comme ça peut-être qu'on arrêterait de profiter des droits d'auteur sur son dos. Voici le premier album qu'il a enregistré en 1978, après avoir déposé une cassette de démonstration chez Warner Bros. Il a composé et arrangé les 9 titres de ce disque. On n'est pas du tout dans le R&B là, mais plutôt dans la soul. La voix de Prince est déjà dans les aigus, et surtout on peut y entendre les capacités musicales de cet artiste qui joue absolument de tous les instruments que vous entendez. D'abord cette introduction à la basse, et puis il y aura la guitare électrique, la guitare acoustique et l'arbre à cloche. Le voici, Prince. Pascal Bruckner, ça vous a intéressé ce premier titre de Prince, qui est un chanteur de votre génération, en tout cas vous avez dû apprécier.
Non, et puis il était plus jeune. C'est un talent extraordinaire, un danseur magnifique, très dans la lignée de James Brown, et puis surtout un artiste d'une très grande générosité, puisque chaque fois qu'il voyageait dans le monde, il faisait ensuite des prolongations de ses concerts jusqu'à 6 heures du matin. Ses clips étaient hallucinants, il était toujours environné de créatures belles à mourir. Et donc il a vraiment joué de tous les codes du rhythm and blues et de la soul et du funk. Et c'était vraiment évidemment, sa disparition est extrêmement dommageable pour la musique.
Merci Pascal Bruckner. Je rappelle le titre de votre essai, La sagesse de l'argent, c'est sorti chez Grasset. Un grand merci à vous de nous partager cette heure musicale avec nous.
Absolument.
Et philosophique un peu quand même.